BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Julien Kistrebert qui ce soir nous accompagne pour Taylor AM. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner. Vous pouvez nous suivre aussi bien sûr en replay, en podcast, toutes les interviews thématiques de l'émission. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire. On vous remercie, on tient vraiment à vous remercier. Au mois d'avril, les téléchargements des podcasts et replays de BFM Bourse ont progressé de 135%. Voilà. C'est beau. Merci à tous. 319 000 téléchargements au mois d'avril pour BFM Bourse. Un immense merci également à tous nos intervenants qui se succèdent et répondent si souvent, comme vous Julien, à l'appel de BFM Business et de BFM Bourse. Alors ce soir, oui, le CAC 40 termine en hausse. Encore une hausse, c'est bien. Et on a un secteur qui cartonne en Europe, c'est le secteur financier. Les publications sur le secteur bancaire sont, alors, à l'exception peut-être de la Société Générale, mais elles sont toutes appréciées, elles sont toutes applaudies par le marché. Ce soir, UBS nous annonce renouer avec les bénéfices pour la première fois depuis le rachat de Crédit Suisse. UBS gagne quasiment 10% en clôture à Zurich. On a aussi UniCredit. En 3 ans, UniCredit a autant progressé sur le marché que Nvidia. Incroyable. Qui l'eût cru? Est-ce qu'on est, alors UniCredit plus 400% en 3 ans, c'est bien, c'est beau. C'est un petit peu, ils sont un peu isolés là-dessus, hein. Voilà. Les autres banques n'ont pas autant progressé. Mais est-ce que vous vous dites qu'effectivement, le secteur bancaire, c'est peut-être le play du printemps qui souffle sur les marchés?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un changement de vision. C'est-à-dire que pendant longtemps, on entendait beaucoup d'investisseurs dire « Moi, les banques, j'y toucherai jamais, c'est trop compliqué. » Certainement, évidemment, des séquelles des catastrophes qu'on a pu avoir comme en 2008. Et on voit que là-dessus, en tout cas, c'est en train de changer. Ça se voit à travers un ratio, alors, c'est un peu technique, mais la price to book, hein, la valeur de la capitalisation boursière par rapport à la valeur de l'actif comptable. Et on voit qu'on se rapproche d'une parité, en tout cas en termes de valorisation, alors qu'on a eu pendant longtemps des niveaux de multiples qui étaient extrêmement bas. Donc je dirais que c'est la beauté des valeurs cycliques, valorisation très basse, des résultats qui s'améliorent. Pourquoi ? Des chiffres d'affaires qui augmentent, un environnement de taux qui est plus favorable, donc les marges d'intérêt augmentent, et puis en même temps, ils arrivent à réduire leurs coûts. Et donc là-dessus, ça fait un effet de ciseau positif qui fait que les marges sont extrêmement solides. Tout ça dans un environnement où le coût du risque est extrêmement bas encore aujourd'hui. Donc les banques sont en capacité de retourner du cash à leurs actionnaires via des rachats d'actions, des dividendes, etc. Et on voit que ce secteur, du coup, s'en sort plutôt bien et c'est somme toute assez logique au vu du contexte.
Il y a quelques ovnis comme ça, comme UniCredit, immense banque italienne, la deuxième plus grande banque italienne, qui en 3 ans s'offre la même performance boursière qu'Nvidia. Voilà, c'est Valentin Offrand sur les réseaux qui a publié effectivement cette data et elle est très très forte. Vraiment, on tenait à rebondir dessus dans l'émission. Et Stéphane Déo nous disait tout à l'heure, ce qui est fou avec UniCredit, c'est que la performance en 3 ans, alors le titre vient de très loin quand même.
Oui.
La performance en 3 ans est comparable à celle d'Nvidia. C'est fou, c'est une banque, grosse banque. Et le rendement, lui, est de 12%. Un rendement de 12%. Donc vous cumulez le rendement de 12% plus la performance boursière, c'est magnifique pour les actionnaires d'un groupe comme UniCredit. Alors qu'Nvidia n'offre pas de rendement, très très peu.
Tout voilà, à fait.
C'est une grande différence. Bon, est-ce que, oui, ce secteur, donc, à vos yeux, offre du potentiel, d'autant que dans cet univers des valeurs décotées, dans cet univers value, un autre secteur, lui, tente à s'essouffler, secteur automobile. On voit le secteur auto, ce soir, après la visite de Xi Jinping, recule un petit peu, Renault, Stellantis, voilà, il n'y a pas eu de miracle à l'occasion de cette visite de Xi Jinping pour les groupes automobiles. Est-ce qu'on se dit que pour le secteur bancaire, ça dégage encore un peu plus la voie pour attirer les investissements, parce que pour les investisseurs value, c'est un secteur, là, l'automobile qui s'essouffle, donc peut-être un peu plus d'argent qui ira sur les banques plutôt que sur l'auto. Est-ce que dans les gestions,
oui,
on peut raisonner?
Oui, ça peut. Après, on va être franc, la gestion value, elle est toute petite maintenant, aujourd'hui, en termes de volume. Tout le monde a des produits croissance-qualité, donc les fonds pure value, aujourd'hui, c'est pas anecdotique.
Sauf que si elle monte, là, c'est la value et la croissance s'essouffle.
Exactement. Non, mais c'est assez logique. Donc oui, il pourrait y avoir un arbitrage. Après, sur le secteur automobile, on verra ce que donnent évidemment les discussions avec la Chine, mais pour l'instant, pas de catastrophisme non plus. On a des titres qui ont bien baissé depuis, les points hauts. On pense notamment à Stellantis, qui vient de 27-28 euros, qui retombe à 20 euros aujourd'hui. Donc c'est vrai que le titre est à un niveau qui, en notre sens, en tout cas attractif. Mais pour revenir sur le secteur bancaire, oui, c'est un secteur qu'on peut avoir en portefeuille, qui a des bonnes perspectives. Des groupes comme ING, c'est du retour de cash, c'est des marges d'intérêt qui sont bien orientées aussi, des marges tout court sur les frais aussi. Donc globalement, on a une dynamique qui est bonne. Et tant qu'on n'a pas de ralentissement économique plus marqué que ce que l'on a aujourd'hui, voire même on a des surprises du côté européen, pas de raison en tout cas que le secteur ne continue pas à bien performer.
Vous voulez qu'on parle cognac, Oui, oui, je vous vois venir.
Pas spécialement.
Ouais, Rémi Cointreau, ce soir, gagne 6%. On a Pernod Ricard aussi qui progresse d'un peu plus de 3%. Effectivement, à l'issue de cette visite de Xi Jinping, le président chinois, il semble que les acteurs du cognac français pourraient éviter une taxation, une taxe douanière chinoise, en attendant le résultat d'une enquête anti-dumping, quand même, qui suit son cours, elle. Voilà, est-ce que ces valeurs-là, cette thématique-là, du coup, retrouvent beaucoup plus d'intérêt? Rémi Cointreau, plus 6 ce soir, ouais. Vous aimez bien ce titre?
Bah, je dirais que finalement, Rémi Cointreau a moins rebondi que Pernod Ricard, hein, puisqu'ils ont une bien plus grande sensibilité au cognac que Pernod Ricard, qui est un groupe beaucoup plus diversifié et beaucoup plus international.
Ah oui, donc proportionnellement, vous trouvez que la hausse de Rémi Cointreau, finalement, est peut-être, même si elle est supérieure à celle de Pernod Ricard, cette hausse de Rémi Cointreau est finalement un peu décevante, quoi.
Elle est décevante pour vu leur sensibilité au marché chinois et au cognac, donc tout à fait. Voilà, mais oui, avoir ce genre de valeur, enfin, on en a parlé il y a quelques semaines, hein, je disais que le Pernod Ricard me semblait être sur des niveaux de valorisation qui étaient attractifs. Bon, Rémi, c'est un peu plus qui tout double, entre guillemets, hein, puisque si les droits de douane sont mis en place, finalement, c'est sûr que ce sera un peu plus sensible sur le titre. Mais en tout cas, Pernod, on peut y aller pour jouer cette thématique sans problème.
La visite de Xi Jinping qui s'achève, hein, les deux présidents, Xi Jinping et Emmanuel Macron, étaient aujourd'hui dans les Pyrénées. Alors on imagine qu'Emmanuel Macron espérait une tempête de ciel bleu, c'était une tempête de neige. Je ne sais pas si vous avez vu les images, ils étaient dans le brouillard sur un sol glissant. Bon, voilà, la météo n'était pas trop au rendez-vous. Et oui, le brouillard et la neige, un petit peu à l'image des relations quand même en ce moment entre la Chine et l'Europe. Voilà, la météo... C'est mis à l'unisson. Le CAC ce soir, en tout cas, en hausse, en mode, oui, ascension cette semaine. Les marchés, le CAC a gagné 0,9% supplémentaire. Julien, il faut qu'on parle de Bouygues. La publication de Bouygues, alors elle a été sanctionnée, cette publication. Dans l'immobilier, c'est pas terrible pour Bouygues. Le titre ce soir perd plus d'1,5%. Est-ce que c'est un point d'entrée?
C'est un dossier value, donc on a une bonne génération de free cash flow, on a un très bon dividende, donc j'ai envie de dire que tout va bien pour la société, hein, malgré tout. Mais il n'y a pas de momentum, et on voit le marché, hein, ce qu'il veut, c'est acheter des sociétés sur lesquelles il y a du momentum. Donc l'immobilier est compliqué, les télécoms aussi, hein, la partie mobile, on voit que c'est un peu plus difficile sur l'ARPU notamment. Même si sur le fixe, ils ont un peu de potentiel, sur la partie mobile, c'est plus complexe. Donc voilà, rien de très excitant, je dirais, sur ce dossier en termes de dynamique. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a un bon rendement, on a une boîte qui est bien gérée, donc il n'y a pas de sujet à en avoir en fond de portefeuille.
C'est ça, l'un de nos intervenants nous disait tout à l'heure, il faut toujours acheter Bouygues quand le titre recule. Vous partageriez cet avis sur Bouygues? Il faut toujours acheter les
poids. On peut le dire sur plein d'actions, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Le marché action...
Oui, maintenant vous le dites, c'est pas faux.
Le marché action est aussi sur le long terme, donc globalement, quand ça baisse, on a plutôt intérêt à acheter, ça c'est clair. Voilà, maintenant, est-ce que c'est la meilleure valeur à avoir en portefeuille? Peut-être
pas. Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval Finance. Jean-Louis, sur Bouygues, après sa publication ce soir, -1,5%, est-ce que c'est un point d'entrée à vos yeux pour la suite?
Un point d'entrée immédiat, non. Par contre, si jamais... en fait, le point d'entrée, il a duré quelques minutes. Hein. C'est toujours pareil. C'est d'une violence terrible. Ce rebond, si vous voulez, est un rebond positif. Bouygues, c'est une valeur vraiment solide. Hein. Je ne vais pas vous faire le coup de la valeur béton, mais c'est vraiment une valeur vraiment intéressante, je pense, à posséder, à acheter sur des replis. L'idéal, ça serait vers 32,5, parce que là, il y aurait du potentiel de reprise, mais n'empêche que dans ces conditions actuelles, même là, en partant d'aujourd'hui, elle pourrait aller à 39 €, qui serait un objectif graphique classique dans la configuration actuelle. Donc, c'est sûr que c'est pas maintenant tout de suite. Tout à l'heure, 33,5, c'était pas mal au plus bas. Ça représentait un petit pullback sur une zone d'achat, sur repli. Oui, c'est une valeur, faut la surveiller. Vous savez, quand ça va mal, faut avoir une liste de valeurs préparées à l'avance. D'accord. Et on les achète à ce moment-là. C'est ce que font les gérants, etc. Ils regardent les fondamentaux, ils regardent les analystes, ce qu'ils en disent. Et après, c'est eux qui décident du prix du moment en regardant le prix et l'ambiance générale.
Merci Jean-Louis. Jean-Luc Cussac qui nous appelait depuis Perceval Finance, voilà, pour réagir sur ce potentiel de Bouygues après la publication. Le titre est ce soir sanctionné. Une autre valeur sanctionnée, c'est à Wall Street, Walt Disney. Le titre Disney perd 10%. Alors que Wall Street progresse, hein. Moins 10% Disney, les perspectives dans le streaming déçoivent les investisseurs. On en parlait avec John Plassard dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans les replays, c'est très très facile à trouver, mais c'est vraiment la grosse déception du jour. Disney, moins 10% aux États-Unis. Ubisoft, vous vouliez en parler d'Ubisoft. Stifel qui relève son conseil, Julien, sur Ubisoft. Plus de 3% de hausse ce soir, c'est une belle progression.
Il n'y a pas que d'ailleurs, hein. Deutsche Bank aussi pousse le titre à l'achat. Bon, c'est un call vraiment momentum. Hein. Ubisoft, valeur mal aimée par le marché, avec une forte décote par rapport à ses concurrents dans le secteur du jeu. Et puis là, on espère un peu de momentum avec deux grosses sorties à venir, hein, du côté de Star Wars et puis du côté d'Assassin's Creed. Et donc, beaucoup beaucoup d'attentes là-dessus sur deux jeux triple A qui pourraient en tout cas redonner un peu de momentum sur le titre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau de valorisation, ça peut être tentant. Ça reste quand même du trading plus que du fonds de portefeuille parce que on voit bien le groupe a quand même beaucoup de mal sur les jeux gratuits, etc.
Très sous-coté par rapport à ses concurrents d'ailleurs, Ubisoft sur le marché. Le titre ce soir cote donc termine à 22,45€. Et puis dans l'univers de jeux vidéo, Nintendo a annoncé qu'il dévoilerait le successeur de sa vieillissante console Switch. Ils dévoileront le profil de cette future console qui succédera à la Switch d'ici un an, d'ici mars 2025. Voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure Nintendo. Vous ne pouvez pas se quitter, Julien, sans évoquer le Borussia Dortmund ce soir. Match retour de la Ligue des Champions face au PSG. Alors depuis le match aller où le Borussia Dortmund a gagné, le titre a gagné 5%. Et ce soir, il y a un peu de doute. Le titre a reculé en clôture de 0,2%. C'est un bon signe pour le PSG.
Écoutez, il faut l'espérer. Il y a une victoire française.
Ouais. La bourse n'est pas très bonne dans les pronostics footballistiques, en l'occurrence. Il ne faut pas forcément se fier à cette petite baisse de 0,2%. Mais vous aurez, mesdames, messieurs, au moins entendu ici dans BFM Bourse ce soir que le Borussia Dortmund a perdu. Perdu du terrain en bourse. On verra ce qu'il en est sur le terrain de foot ce soir. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir accompagnés.
Merci.
Julien Kistreber pour Taylor AM.